Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence, donc avec Jean Mathias, moi-même, Michel au micro, José, comment dire, en studio, avec un Simon d'Enfant Sauvage qui nous accompagne, même si Enfant Sauvage n'existe plus, c'est pas grave. Et donc,
il sera toujours,
dit José, voilà, qu'il écoute sans cesse. Et ce soir, on va vous présenter, peut-être que vous en doutez, après ce morceau The X, qui est une reprise de la chanson classique I Carmela, qu'on va vous présenter un bouquin d'un historien anglais, Chris Hillam, Les anarchistes dans la ville. Alors, on aurait aimé le faire venir, mais...
On a failli le faire venir,
et ça a été trop compliqué. Et donc, c'est un bouquin qui vient d'être publié chez Agone, et qui s'intitule « Les anarchistes dans la ville, révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937 ». Et donc, un des nombreux intérêts du bouquin, mais c'est Jean-Mathias qui va le présenter, c'est que il va situer un mouvement politique aussi dans un cadre, dans le cadre d'une politique urbaine, et aussi d'une politique économique nationale. Et donc... c'est une espèce de vision, très ancrée du mouvement. Pourquoi, en gros, est-ce qu'il y a autant d'anarchistes en Espagne ? C'est un des seuls pays européens dans lesquels il y a autant d'anarchistes à cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passe pour que ça se fasse comme ça, quoi ? Et pourquoi est-ce que Barcelone peut être le centre d'une telle, d'un mouvement aussi vivace qui, de fait, continue d'inspirer les mouvements anarchistes actuels, puisque ça fait partie des grosses références. Donc voilà, et en plus l'auteur avait un côté très très sympathique, c'est que ça on va s'en apercevoir à cause des morceaux aussi, quoique non, je ne l'ai pas fait, c'est que c'est quelqu'un qui est venu à l'histoire et à la recherche intellectuelle à partir du punk et de Crass. Et donc je sais qu'il se fout de notre gueule.
Il n'y a aucun morceau de Crass sur l'Espagne.
Non, mais il aurait pu trouver un morceau de Crass bien, voilà, c'est tout. Il n'a pas voulu. Donc José, on te zute. Donc Jean-Mathias.
Ouais, peut-être deux mots d'abord. Alors sur l'auteur, tu l'as dit, effectivement, il a un profil plutôt séduisant, Chris Hillam, parce qu'effectivement, comme tu dis, il a commencé un peu dans les fans, on pourrait dire, de ce groupe anarcho-punk Crass, groupe anarcho-punk britannique, quasiment la première vague, hein, c'est vraiment les années 80, le début des années 80, et il a été édité un des fanzines effectivement du groupe, donc il a été très proche de ce groupe-là, et il le dit d'ailleurs, en fait. C'est pas un scoop, un condamne, c'est-à-dire qu'il le dit, notamment dans la préface, traduction française, là, il le rappelle lui-même, c'est-à-dire que c'est un marqueur, hein, qu'il est venu, aux sciences humaines, il est venu à la politique d'abord, et puis ensuite à la recherche et à l'anarchisme par le mouvement anarcho-punk début des années 80. Donc ça, pour nous, c'est un ticket d'entrée qu'on valide en général. Hein. Donc ça c'est pour le gars. Après, donc il s'est spécialisé, donc il vit, il enseigne maintenant à Madrid. Il est devenu, donc c'est un historien tout à fait reconnu. C'est même un des spécialistes actuels du mouvement anarchiste espagnol. Il enseigne donc à l'université à Madrid, hein, non pas à Barcelone, mais à Madrid, si je me trompe pas. Et alors, ce livre, Les anarchistes dans la ville, c'est la traduction française de sa thèse, qui, elle, a été publiée il y a déjà une dizaine d'années. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle est disponible en espagnol et en anglais depuis déjà pas mal de temps. Et donc, la nouveauté et l'actualité du bouquin, c'est là, il vient de sortir, la traduction vient de sortir chez Agone, hein, l'éditeur marseillais qu'on a très souvent commenté et chroniqué ici dans cette émission. Donc c'est ça l'actualité du livre. Alors,
c'est aussi un élève de Paul Preston.
Ouais.
On peut le préciser pour les aficionados.
Ouais, historien britannique aussi,
qui est spécialiste de la guerre d'Espagne et qui a en partie révolutionné le point de vue sur l'historiographie, puisque justement ils s'inscrivent dans une perspective de et ils sont opposés à tout un courant historique qui visait quasiment à revaloriser et à normaliser le coup d'État franquiste. Mmh. Donc là-dessus, il y a un débat.
Il en parle peu. C'est vrai que nous, en France, t'as une petite distance par rapport à ça, mais c'est vrai que il le rappelle dans la préface ceci. Il explique que la thèse, en tout cas, elle a été motivée et la publication de la thèse a été motivée par effectivement des controverses qui ont lieu actuellement en Espagne, une forme de révisionnisme historique, si on peut dire, autour du coup d'État franquiste et puis de la fascisation du coup qui est de la société espagnole qui a suivi derrière. Il y a effectivement, semble-t-il, mais bon, moi je suis pas spécialiste de l'historiographie espagnole, mais en langue espagnole, il y a aujourd'hui tout un courant universitaire qui tend à réhabiliter autant que faire se peut Franco et puis ce qui a suivi. Donc évidemment, il s'inscrit contre ce courant-là. Alors le bouquin maintenant, c'est un très bon livre, moi je trouve très bon livre, très très agréable à lire, avec beaucoup de, il y a une iconographie assez chouette dedans, beaucoup de photos d'époque, beaucoup d'informations, c'est très dense, bien écrit, je trouve, c'est-à-dire que il est très lisible et puis très pas du tout jargonnant, c'est très très fluide. Hein,
c'est pas un livre universitaire avec des tonnes de notes de bas de page.
Ça jargonne pas, ça surnote pas, c'est. Et il a des particularités, ce bouquin, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il... alors, d'abord, le sous-titre, c'est la période, c'est 1898-1937. Donc, c'est un spectre assez large, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est même pas la première moitié du XXe siècle, hein, mais c'est, en gros, voilà... En gros, c'est le moment CNT de Barcelone. Hein, le moment CNT, c'est-à-dire le moment Confédération Nationale du Travail, le moment anarcho-syndicaliste de Barcelone.
Et ça s'achève avant la défaite.
Exactement.
De la CNT.
Et ça, avant la défaite de la République.
Avant la défaite de la République.
Ça s'arrête donc à 1937, c'est le moment où en fait la CNT est virée du gouvernement républicain qui lutte contre le coup d'État de Franco. Et lui, d'après lui, à partir de ce moment-là, en fait, ce moment anarcho-syndicaliste à Barcelone. Alors, c'est pas simplement anarcho-syndicaliste, c'est réducteur de dire ça, c'est les anarchistes. Hein. Donc, il y a effectivement l'émergence de très très particulière quand même, hein, dans l'histoire de l'anarchisme et du mouvement ouvrier et du syndicalisme en général. Il y a l'émergence de la CNT barcelonaise, catalane, hein. C'est quand même l'essentiel de son propos, la manière dont en fait cette institution, cette organisation ouvrière, révolutionnaire, anarchiste, va devenir une organisation de masse, et à ma connaissance c'est un cas unique. C'est un cas unique en Europe, mais au-delà. Hein, c'est-à-dire que c'est assez particulier, cette émergence-là. Et en fait, ce qu'il va essayer de montrer, le sujet de son bouquin, en fait, et de ses recherches, c'est de montrer comment l'émergence de cette organisation, hein, c'est une organisation syndicale avec un projet politique derrière, comment l'émergence de cette organisation prend corps, on pourrait dire, dans un milieu urbain particulier, qui est celui de Barcelone, dans un moment historique particulier, et dans un espace particulier, qui est celui de la Catalogne et de Barcelone en Catalogne. C'est-à-dire que y a tout un tas de facteurs, il y a une espèce d'alignement des planètes assez dingue, en fait, qui est à l'origine de cette réalité historique-là, c'est-à-dire, en fait, d'un mouvement anarcho-syndicaliste qui va compter au moment en fait où la République arrive, donc en 31, il va y avoir plusieurs on est proche du million d'adhérents en fait, hein, pour la CNT, ce qui est un cas absolument unique, hein. Donc un million d'adhérents, ça va aller loin, la prise de responsabilité, l'accès au pouvoir va aller très loin, parce que vous savez que c'est le paradoxe en fait de cette situation-là, c'est qu'après, au moment de l'avènement de la République et après le coup d'État, surtout, vous allez avoir des ministres anarchistes, hein, qui vont intégrer un gouvernement, le gouvernement républicain espagnol. Donc il y a des ministres anarchistes, les anarchistes constituent une tendance majoritaire au gouvernement espagnol. Et vous avez tout un millefeuille en fait, hein, qui va en gros des espèces de corps paramilitaires libertaires, la fameuse colonne de Ruti par exemple, jusqu'à en fait des gens qui ont des portefeuilles de ministres au gouvernement, le tout avec un ancrage dans des quartiers populaires qui sont parmi les plus pauvres d'Europe et les plus insalubres d'Europe. Hein, ce qui rappelle aussi. Et en fait, le cœur de son bouquin, c'est en fait comment cette situation-là est possible. Et les outils qu'il va utiliser, et c'est en ça que c'est un livre qui est effectivement plaisant et original, je trouve, c'est non seulement la chronologie historique habituelle, une analyse historien habituel, mais il va mobiliser effectivement aussi toute une analyse spatiale hein, sur l'histoire urbaine de la ville barcelonaise, une analyse en termes aussi d'histoire sociale, c'est-à-dire qu'il fait toute une analyse de du capitalisme catalan et barcelonais, de ses fragilités, de la spécificité géographique aussi de la Catalogne et de Barcelone, qui est en fait toujours avec un paramètre qui est assez unique aussi, c'est-à-dire son espèce de rejet de l'État central à Madrid et du pouvoir central espagnol, qui fait qu'il y a toujours cette espèce de distance qui va permettre aussi des espèces de poches, de niches, pourrait-on dire, voilà, culturelles et politiques qui vont justement être à l'origine de l'émergence de ce courant-là. Il y a des très belles pages aussi où il montre la manière dont la CNT se positionne par rapport au mouvement autonomiste catalan, qui est la force, en réalité, la force qui va tirer les marrons du feu et qui va passer, en fait, au travers de cette histoire-là, et qui est d'ailleurs toujours présente aujourd'hui, contrairement à la CNT, mais ça aussi c'est intéressant. Et en fait, c'est cette espèce de mixte là où il inscrit, voilà, il y a une espèce de voilà d'analyse où il montre que la CNT comme organisation de ouvrière de masse est presque née de manière quasiment organique en fait de cette ville là. C'est-à-dire qu'il y a les quartiers, il y a les quartiers populaires, il y a les quartiers ouvriers, il y a la culture ouvrière, il y a une conscience de classe extrêmement forte, et une culture de l'autonomie ouvrière qui va se mettre en place derrière ça. Alors, toute proportion gardée, ça ressemble un peu à ce que la France a connu avec le moment syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire le moment de la CGT avant 1914, et le projet qui a été nourri par des anarcho-syndicalistes en France avec la Fédération des Bourses du Travail. Donc, il y a des similitudes là.
C'est Ferdinand Pelloutier, c'est Pouget, c'est tous ces gens-là.
Pouget, Pelloutier, qu'on a. Voilà. Et donc, alors, il y a un peu une ressemblance avec ça, sauf qu'à Barcelone, ça va prendre des dimensions qui sont absolument inconnues en France. Hein, et une densité là-dessus. Avec une culture anti-étatique, une culture de subversion populaire extrêmement, extrêmement poussée, une culture anti-flic absolument, absolument fascinante, une culture illégaliste également. Donc il y a comme ça une espèce de cocktail qui est quand même assez unique. Alors c'est-à-dire que en fait je trouve que un des intérêts du bouquin, c'est vraiment de restituer tout ça. Alors on va un peu faire le point sur les différentes couches de ce millefeuille là, mais je trouve que c'est une histoire. Alors bon, très souvent, il y a une dimension épique qui est tellement forte, si tu veux, dans la révolution espagnole après le coup d'État de Franco, y compris dans la tradition libertaire. C'est un truc qui est tellement, tellement marqué.
Bah, ça fait partie maintenant des mythes de la tradition libertaire.
Ouais, c'est ça.
C'est des photos, c'est des images, c'est des romans.
Des photos. Et puis c'est d'autant plus beau qu'ils ont perdu. Et puis c'est d'autant plus beau qu'il y a des condamnés martyrs, etc.
Et puis
etc.
La trahison des communistes,
etc.
Voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Chalon en studio, en entendons-nous.
José critique les communistes depuis le studio. Voilà, il n'a pas peur de Staline. Il est courageux.
Mais ce livre-là, je trouve, a vraiment l'intérêt de remettre ça en perspective du point de vue d'une histoire sociale, spatiale et culturelle. Il y a un peu ça. Et ça permet de comprendre des tas de choses et de comprendre en tout cas en fait l'espèce de degré d'incandescence auquel est arrivée cette ville en termes de culture révolutionnaire à un moment donné. Voilà. Et donc c'est une vraie réussite là-dessus. Voilà. Peut-être c'est sur la présentation. On va peut-être faire une première pause avant de faire quelques zooms plus précis sur le livre. Mais voilà, donc on parle de ce livre de Chris Elam, Les anarchistes dans la ville.
Aux éditions Agone. José, musique.
Thank you.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc, on sait qu'on est, on est écouté dans le monde entier. Aujourd'hui, on vous présente un livre de Chris Hillam, un anglais. Et oui, on parle même des anglais ici. Et qui s'intitule Les anarchistes dans la ville, qui a été édité chez Agone, là, très récemment. Qui est sous-titré Révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937. Et donc, dans la première partie, Jean-Mathias nous présentait un petit peu le côté original de la démarche, qui s'ancre, déjà il y a un côté original dans le découpage historique, parce que très très fréquemment, on s'intéresse uniquement à la période globalement de la République espagnole, du coup d'État et de la défaite de la République, alors que là, le spectre est plus large, puisqu'il part du début de la il part aussi de la monarchie. Et en quelque sorte des débuts du capitalisme en Espagne, et en particulier des débuts d'un capitalisme complètement dérégulé, qui va produire
et
des
effets fragiles.
Et fragiles. C'est-à-dire que d'un côté ils essaient de se faire un maximum de fric, et de l'autre côté ils n'ont pas les structures politiques, financières et sociales pour s'en faire autant que ça, sans que ça déséquilibre. Tout ce qui leur permet de gagner de l'argent, moi, c'est ce que j'ai compris du début du bouquin. Mais au début de justement de l'organisation de Barcelone et la façon dont ils vont essayer le capitalisme ont essayé d'engranger un maximum de pognon.
Si tu veux, ce qui est intéressant, je trouve, dans son analyse, alors c'est le début du bouquin, il pourrait insister un peu plus là-dessus. C'est la seule réserve que j'ai, mais en fait, c'est aussi le parti pris, si tu veux, de Chris Hillam, c'est qu'en fait, sa chronologie, et en fait, elle est maligne, sa chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de proposer un découpage et de travailler sur une période qui est en fait dictée par le développement de la CNT barcelonaise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un bouquin sur l'histoire de l'Espagne, c'est pas un bouquin sur l'histoire de Barcelone, c'est pas un bouquin sur l'histoire de la Catalogne, c'est un bouquin sur l'histoire de la CNT à Barcelone, en Catalogne. Voilà. Et en fait, son découpage et sa périodisation, elle obéit à ça. Alors, c'est un peu troublant parce que du coup, si tu veux, il te parle des grandes dates, si tu veux, de l'histoire espagnole, mais à travers le prisme de ses effets, si tu veux, sur l'émergence de cette culture ouvrière et anarcho-syndicaliste de masse. Que va être la CNT et cette espèce d'aboutissement de la CNT entrant au gouvernement espagnol en 31. Et alors, c'est à la fois un peu déboussolant, je trouve, parce que si tu veux, du coup, il passe relativement.
Pas en 31 ?
Bah sur la bascule, c'est à ce moment-là, avant le coup d'État, l'avènement de la République, c'est 31. Et du coup, en fait, si tu veux, il passe pas trop de temps, tu vois, à surligner les grandes tensions, t'as la chute de la monarchie, t'as la dictature de Primo de Rivera en 23. Bon, alors il monte effectivement à chaque fois, mais c'est vu depuis les quartiers populaires ouvriers de Barcelone. Et c'est assez lointain, du coup, si tu veux. Et je trouve que c'est assez malin, en fait, de sa part, parce que si tu veux, il te montre, dans la manière dont il traite ces événements à l'échelle de l'Espagne, il te montre la distance qui existe entre cette espèce d'historiographie un peu officielle où t'as la frise chronologique nationale, madrilène, espagnole, etc., etc., républicaine même. Et en fait, il essaie de te restituer la perception, si tu veux, de cela, qui est une perception assourdie, je dirais. Tu vois, et éloignée et un peu lointaine du point de vue des quartiers ouvriers populaires de Barcelone. Alors ça, c'est intéressant. Alors par exemple, il passe peu de temps, il passe peu de temps, mais c'est essentiel, pour t'expliquer le succès du mouvement anarchiste en Espagne, ce qui est quand même une énigme, si tu veux. Pourquoi, effectivement, en Espagne, ça prend à ce point-là ? Bon, alors, en fait, il y a pas mal de raisons là-dessus. C'est-à-dire que tu as tout le terreau pour qu'un mouvement révolutionnaire, ouvrier, radical se mette en place. C'est-à-dire, il y a ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il rappelle, tu as un problème, effectivement, de la structuration du capitalisme catalan et espagnol, et particulièrement catalan, qui est faible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de concurrence, il y a une capitalisation qui est insuffisante, beaucoup de capitaux étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, les capitalistes catalans et barcelonais sont relativement fragile et faible. T'as un État central qui est loin et dont les gens se méfient localement, y compris la bourgeoisie barcelonaise.
Voilà. Pour des motifs nationalistes.
Pour des motifs nationalistes et autonomistes contre le pouvoir castillan. Alors, c'est d'abord la monarchie, puis après, c'est la dictature de Primo de Rivera, puis après, ça va être le gouvernement de transition, puis après, ça va être la République. Mais en fait, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as ce facteur catalan qui te met à distance, en fait, l'autorité du pouvoir central, toujours. Et puis, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as aussi, en fait, du coup, une espèce de crise urbaine qui est colossale. Avec une ville qui a une crise de croissance gigantesque et qui va attirer, qui va aspirer littéralement toutes les campagnes autour et même de très loin. Et donc, il va voir sa population se multiplier à vitesse grand V.
Exploser aucune régulation.
Sans aucune régulation, si tu veux, des offres de logement, du service public, je t'en parle même pas, de service public, il n'y a rien, si tu veux. Donc, l'État est loin, il est nul, il est faible. C'est-à-dire
que là, vous avez des photos de gens qui, par exemple, payent pour dormir en s'accrochant à des cordes.
Exactement. Pour dormir debout, appuyé contre des cordes. C'est-à-dire qu'on loue effectivement des endroits. Donc, pour les gens qui sont à la rue, les gens peuvent louer comme ça, effectivement, des logements où ils dorment, effectivement, appuyés sur des cordes. Mais c'est pareil. Alors, on parle souvent, il faut bien se représenter, on est au tournant du tout début du XXe siècle, fin du XIXe. Les chiffres, en fait, sont assez terrifiants en termes d'insalubrité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 38 fois plus de chances d'attraper la typhoïde à Barcelone qu'à Londres, à l'époque. C'est pour vous donner une idée des conditions sanitaires.
Qui sont épouvantables, parce que si vous lisez George Orwell dans La Dèche à Paris, absolument, à Londres, vous verrez qu'à Londres, en fait, les foyers pour travailleurs dans lesquels on dort la nuit sont abominables.
Exactement. Et Barcelone, c'est pire. Voilà, Barcelone, c'est
38 fois pire.
T'as une population qui explose, qui est multipliée par 3 ou 4. Le logement, l'offre de... Et t'as une immigration qui est massive. De gens qui sont d'origine de la campagne, des ruraux, des jeunes hommes, pauvres. T'as des sans-logis partout. Et en fait, t'as du coup une espèce de solidarité populaire, en fait, avant d'être ouvrière, même qui se met en place, si tu veux, dans les quartiers. Les pauvres étant au cœur de la ville, notamment, il y a toute une série de cartes en fait où il explique effectivement comment la pauvreté est ancrée au cœur du paysage urbain.
Oui, parce que les riches ont essayé de partir un petit peu au loin, construire leur cité parfaite plus loin que les pauvres, mais au bout du compte, c'est les pauvres qui prennent le contrôle de la ville.
Et comme partout ailleurs, si tu veux, ils ont les mêmes fantasmes haussmanniens qu'à Paris. En fait, tout le monde regarde vers Paris parce que Paris est la ville effectivement où les ouvriers ont été mis au pas, où Haussmann a créé des grandes avenues confortables pour les bourgeois et pour les tanks les tanks à l'époque, mais pour l'artillerie, empêchant les barricades et tout ça. Et à Barcelone, ça foire. Ils n'arrivent pas. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'autorité, si tu es centrale, suffisamment efficace pour modeler la ville en fonction des intérêts objectifs de la bourgeoisie. Donc, ça ne marche pas. Donc, tu as des quartiers pauvres, ouvriers, massifs. Tu as des quartiers...
Est-ce que c'est un des rares cas où, finalement, le pouvoir capitaliste et le pouvoir étatique n'arrivent pas à s'accorder?
Probablement.
Pour, en quelque sorte, mettre au pas la classe ouvrière. Parce qu'un des gros trucs des années anarchistes, c'est de dire le capitalisme a besoin de l'État, et l'État a besoin du capitalisme. Et donc les deux, en règle générale, coordonnent nos efforts. Et tiens, l'État peut rappeler le capitalisme et lui dire qu'il faut faire des compromis pour justement maintenir sa position, etc. etc.
Et là, peut-être. C'est une vision au cœur de l'État. Puisque justement, si tu veux, le patronat local est très souvent autonomiste. Voire nationaliste, si tu veux, donc plutôt hostile au pouvoir de Madrid, et donc tu as une division du point de vue dans le rapport à l'État. Et du coup, le patronat local va s'organiser avec ses propres forces, c'est-à-dire qu'il va créer ses propres milices. Ses propres milices, ses propres organisations qui vont être des espèces de... Alors, c'est intéressant, parce que c'est une espèce de culture, si tu veux, proto-fasciste, que tu vas retrouver en Amérique latine après. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des escadrons de la mort, en fait, antisyndicalistes, t'as une espèce de répétition. Ça sert de laboratoire à ça, si tu veux.
Aussi, oui.
Avec un patronat qui, en fait, est démuni parce que... Alors, la police, si tu veux, qui est payée par la monarchie au départ, est parfaitement inefficace, mal payée, corrompue, et en fait, ils se font taper la gueule dans tous les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas la loi. Alors du coup, évidemment, ils surréagissent. Du coup, ils déclenchent des émeutes. Etc. Mais ça marche pas. C'est des zones de non-droit. Ils ont pas le contrôle. Ils ont pas le contrôle, si tu veux. Et donc le patronat s'autogère, si tu veux.
Comme à Neuilly.
Un peu comme à Neuilly. Alors bon, je sais pas. Je sais pas s'il y a des milices patronales encore à Neuilly. T'as un côté un peu comme ça. Et du coup, si tu veux, c'est effectivement la fragilité du capitalisme catalan et barcelonais, celle de l'État en face, qui fait que du coup, t'as un terreau, pour une contre-culture révolutionnaire, insurrectionnelle, illégaliste, qui se met en place dans les quartiers populaires et dans les quartiers ouvriers notamment. Alors là où ils habitent, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il faudrait un petit peu plus de billes, mais c'est un paramètre hyper important, c'est qu'en fait, si les anars occupent le terrain, c'est parce qu'en fait, les sociodémocrates foirent aussi. Et c'est important, ça. Oui. Et alors ça, il passe pas assez de temps là-dessus. C'est-à-dire que si tu veux, il explique que si tu veux que, justement, c'est lié au fait que toutes les organisations social-démocrates, elles s'organisent à l'échelle de l'Espagne.
Ah oui.
Alors qu'au contraire, tu as une espèce de localisme, si tu veux, des anarchistes, même d'hyper-localisme. C'est-à-dire que tu as la tradition, si tu veux, des groupes affinitaires semi-clandestins qui fonctionne avec des espèces de côté un peu moine soldat, si tu veux, c'est-à-dire voilà, c'est des télévangélistes, hein. C'est un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que tu vois, c'est des cafés, c'est des théâtres, c'est des groupes de discussion par groupe d'affinité, donc relativement difficile à infiltrer par les flics, hein, maximum une vingtaine, etc., même s'il y a des infiltrations quand même. Mais en fait, ça marche parce que, si tu veux, la concurrence n'est pas là. L'adversaire en face, ils sont divisés, que ce soit au niveau du patronat ou au niveau de l'État. Il y a des divisions, t'as pas de concurrence, il n'y a pas de culture stalinienne. T'as pas de culture stalinienne. Et du coup, en fait, si tu veux, toutes les organisations social-démocrates ouvrières de masse apparaissent comme lointaines parce qu'elles sont liées, si tu veux, au pouvoir de Madrid. Elles sont liées à une organisation qui est à l'échelle nationale, qui n'a pas tellement de sens lorsque tu vis dans les quartiers populaires à Barcelone. Et en fait, c'est cet alignement-là, si tu veux, qui va rendre possible, du coup, toute cette espèce de contre-culture populaire, alors avec des particularités, et que c'est poussé très très loin. Hein. T'as aussi tout un tas qu'ils appellent tout un tas de centres sociaux, on pourrait dire, mais qui sont à la fois des mi-centres sociaux, mi-centres culturels, dans lesquels, en fait, tu vas avoir une véritable éducation populaire de masse qui se met en place avec des bibliothèques, avec des pièces de théâtre anticléricales, révolutionnaires, avec des groupes de randonnée en montagne, dans les Pyrénées ou autour de Barcelone, avec des organisations de jeunesse. Bref, toute une espèce d'autonomie populaire, qui se met en place.
C'est l'hégémonie culturelle dont rêve Gramsci, réalisé par les anarchistes à Barcelone.
Exactement. Dans ces années-là. Et alors, t'as plusieurs courants qui convergent. Si tu veux, la CNT, en fait, si tu veux, va venir après tout ça. C'est ça qui est intéressant.
Elle va naître du mouvement.
Elle va naître de ça
plutôt que de l'impulser.
Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, si tu veux, tu as une sociologie populaire immigrée, pauvre, parquée dans des quartiers avec une bourgeoisie violente parce que craintive et sur la défensive avec un État lointain, qui va en fait voir apparaître tout ce qu'ils appellent ces athénées dans les quartiers, qui sont des espèces de centres sociaux avant l'heure, des centres sociaux culturels, mais politiques en réalité, et qui sont des organisations de classe spontanée, si tu veux, avec cette espèce donc de culture qui va se mettre en place à l'échelle, qui va permettre de diffuser un peu large. Voilà. T'as les groupes affinitaires qui, eux, en fait, vont très très vite, en fait, rentrer dans la tradition anarch illégaliste, dans des actions violentes, voire quasi paramilitaires, si tu veux, avec des cambriolages, avec des redistributions, des cambriolages qui vont ensuite servir à alimenter des caisses de grève. Donc, si tu veux,
l'expropriation révolutionnaire.
L'expropriation révolutionnaire. Alors, tout ce qu'il appelle, alors, j'aime bien, il a des bonnes formules aussi, ce qu'il appelle le je sais plus dans quel chapitre, à un moment, il a cette formule-là, il dit, en fait, c'est ce qui va permettre une conception alcaponienne de la révolution. Il y a un côté effectivement comme ça. Et c'est intéressant parce que, si tu veux, il te montre comme ça que tous les fils que tu vas retrouver dans cette espèce de récit assez fascinant, si tu veux, du moment révolutionnaire à Barcelone au moment du coup d'État, en fait, les fils, ils viennent de loin, si tu veux. Tu vois, t'as cette espèce. Le fait que t'aies toute cette ville-là qui, d'un coup, si tu veux, voilà, se dresse comme une espèce de ville ouvrière et que tout se retrouve révolutionné du point de vue voilà, des symboles, de l'environnement, de l'urbanisme, de la signalisation, des vêtements, de tout. T'as des pages d'Orwell dans Hommage à la Catalogne où il décrit ça. Et en fait, c'est effectivement, personne ne s'en remet. Si tu veux, tous les gens qui ont un peu de sympathie libertaire, tu lis ça, en fait, voilà. Bon, ouais. Tu te dis, bon, bah, ok, voilà, ça a eu lieu, quoi, voilà. Et en fait, il te montre effectivement que tout ça, c'est des fils d'une histoire qui est effectivement plus ancienne. Et donc, t'as cet ancrage-là, t'as cette culture-là, t'as donc à la fois des groupes, mais qui sont très, très, très fermés, très, très minoritaires, hein, ces groupes d'affinités, mais en même temps très, très actifs, si tu veux, qui n'ont pas vraiment de concurrence. Cette culture populaire-là qui va diffuser très, très largement, et effectivement, après, hein, la CNT, d'une certaine manière, va apparaître comme une espèce de prolongement institutionnel assez naturel, si tu veux, à ça. Et va permettre, effectivement, de créer des liens de solidarité, de donner un contenu réellement politique, parce que ce qui montre, si tu veux, c'est que c'est une culture très défensive, en fait, la culture des quartiers. C'est une culture très défensive, très illégaliste, très anti-flic, hein, très anti-pouvoir central, très anti-clérical. C'est très important, parce que c'est un paramètre très fort en Espagne. Tous les espèces de services publics croupions dont ils disposent sont tous gérés par l'Église catholique. Avec le pouvoir et l'emprise, si tu veux, évidemment, qui est le ticket à payer. Hein. Et donc, évidemment, tu as une espèce de rejet très violent de ça, ce qui va t'expliquer, du coup, y compris, toute cette espèce de... d'iconoclasme anticlérical que tu as au moment de 36. Enfin, je veux dire, il y a des images qui sont complètement fascinantes, des espèces d'exécutions du Christ, des statues du Christ. Et cette espèce d'anticléricalisme, en fait, il vient de là. Si tu veux,
on fusille les crucifiés,
on transforme. Alors, ça, c'est fascinant aussi. Ils montrent des. Ça, c'est après 36, hein, ce truc-là, c'est ce moment-là. C'est en fait, ils ont. Je ne savais pas ça. En fait, tu as eu tout un mouvement de reconversion des confessionnaux qui ont été transformés en kiosques à journaux, qui ont été transformés en pissotières, etc. etc. Donc, tu as une espèce de. Tu vois, nulle part ailleurs, tu as vu ça. Et en fait, c'est un peu, si tu veux, comme si. Donc, tu as une forme, une espèce de théâtralisation, tu vois, de ce truc-là. Mais qui n'est pas de la mise en scène. Mmh. C'est qu'en fait, si tu veux, l'Église, c'est le visage du mensonge de l'État et de l'abandon de l'État, en fait, si tu veux. De l'abandon de la puissance publique, si tu veux. C'est du mépris de classe. Voilà. L'Église, c'est ça. C'est le masque du mépris de classe, en fait, en Espagne.
Ah, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qui apparaît chez un auteur aussi, aussi droitier que Bernanos.
Bien sûr, dans
Les Grands Cimetières sous la Lune. Justement, à un moment, il dit, l'Église a trahi les pauvres en Espagne, et c'est pour ça que lui, il va finir par rompre avec le franquisme, parce qu'il a exactement la même perception.
Tout à fait. Et si tu veux, c'est un truc que tu vois, voilà, il te remet, si tu veux, ces fils-là, sur une histoire qui est pas si longue que ça, hein, parce que tu vois, en fait, c'est 40 ans, en fait, hein, sa période. Mais en fait, il te montre, voilà, c'est pas quelque chose qui émerge comme ça, voilà.
De nulle part.
Et du coup, c'est assez intéressant, si tu veux, ce point-là. Ça te permet de comprendre, effectivement, même s'il insiste pas assez, à mon avis, là-dessus, sur effectivement cette espèce d'alignement des planètes qui fait que tu vas avoir cette particularité, libertaire et anard, à Barcelone. Et alors voilà, donc ça, t'as ce temps-là, donc ça, c'est la première partie du livre. T'as une deuxième partie, on va faire une pause rapidement. La deuxième partie, en fait, qui est pour le coup vachement intéressante, c'est en fait, il te montre comment effectivement la CNT, du coup, capitalisant, je dirais, hein, sur cette situation-là. C'est un peu dur d'utiliser ce mot-là, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est quand même un peu l'idée. Hein. Capitalisant sur cette histoire-là, je dirais, comment elle va se trouver embarquée dans l'avènement de la République espagnole, hein, après la chute de la dictature de Primo de Rivera, et comment, d'une certaine manière, ça va la tuer. Hein, c'est-à-dire comment ça va la tuer après le coup d'État et au moment de la guerre, hein, d'Espagne et malgré l'embryon des révolutions sociales qui se déroule à ce moment-là. Voilà, donc on va faire une deuxième pause et puis on reprendra après là-dessus.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour vous présenter dans une troisième, mais on l'espère, une dernière partie, parce qu'on va quand même pas trop vous saouler, Sur un livre de Chris Hillam, un historien anglais consacré à Barcelone anarchiste. Donc, il s'intitule Les anarchistes dans la ville, révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937, édité chez Agone. Et donc, avec Jean-Mathias, nous présenter un petit peu pourquoi, finalement, il y a cette espèce de, d'alignement des astres, qui rend possible l'apparition de quelque chose d'unique, en fait, d'unique au monde, quasiment.
Je dirais ça aussi, hein.
C'est-à-dire un mouvement anarchiste de masse qui est spontané et qui va finalement produire lui-même sa propre structure d'organisation politique. Et donc c'est lié à la fois à une faiblesse du capitalisme, à une faiblesse de l'État, à une faiblesse des partis de contestation qui sont eux-mêmes trop centralisés, trop nationalistes. Et donc là, effectivement, vous avez quelque chose d'improbable quoi, qui va se produire. Parce qu'habituellement, on a affaire, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France, à une alliance opportune des capitalistes et des étatistes, des nationalistes et des bourgeois qui, en quelque sorte, sans forcément le planifier, hein, mais juste... associent suffisamment leurs forces pour empêcher que ça tourne trop mal pour eux, pour leurs intérêts. Et là, à Barcelone, ben, vous avez une alliance mal fichue ou impossible de ces forces du pouvoir qui vont à la fois peut-être désespérer Billancourt, Barcelone, et puis et ne pas produire une réponse répressive suffisante pour empêcher ce désespoir de se transformer en force politique. Donc l'analyse
suffisamment efficace, en tout cas.
Suffisamment efficace.
Elle est violente, super violente.
Mais elle est pas efficace. Et donc là-dessus, on voit comment Jean-Mathias nous disait comment justement les anarchistes vont finalement, en quelque sorte, occuper l'espace politique populaire de manière
hégémonique. Contre-hégémonique.
Là, ce serait du Gramsci et hégémonie culturelle. Mais et ça, ce sera un bon exemple à la rigueur. Alors, tu voulais nous parler de quoi
t'as deux autres temps, si tu veux, dans le bouquin. Alors, il y a les deux derniers temps du bouquin. Alors, il y en a qui est tout à fait passionnant, je trouve, et qui est un peu le point fort du livre, parce que c'est une histoire qui est mal connue, enfin, en tout cas, qui est souvent peu rapportée ou peu développée. C'est le moment républicain de la CNT. C'est-à-dire le moment entre la période, entre le moment où la République, la chute de la monarchie, la chute définitive de la monarchie, qui elle-même a déjà été effacée par... Ouais, enfin, définitive. En tout cas, l'écroulement de la monarchie et l'échec de l'aventure Primo de Rivera et de l'aventure Caudillo, de la première vague des Caudillo en Espagne. Hein. Donc 31-36, si tu veux. Hein. 31-36. Et alors là, t'as un truc assez intéressant parce que il fait une histoire très serrée en fait du mouvement autonomiste catalan, nationaliste catalan, et de la manière dont en fait il va accéder au pouvoir en Catalogne avec la République, la manière dont lui-même se fait niquer en fait par le pouvoir central, pour dire les choses, et la manière dont en fait il va servir. Alors c'est assez classique comme analyse, si tu veux. C'est un peu les nationalistes catalans sont un peu ces sociaux traîtres à lui, hein, à Chris Hillam. C'est-à-dire qu'il est très très sévère, si tu veux, avec les effets du gouvernement républicain sur le peuple de Barcelone, je dirais, hein, sur le peuple et sur la classe ouvrière de Barcelone. Il est extrêmement sévère. C'est-à-dire que pour lui, il y a effectivement un lâchage en race campagne sous des beaux discours légalistes, universalistes, constitutionnalistes, compris, voilà. Il y a une vraie escroquerie dans l'idéologie républicaine catalane, d'après lui. On pourrait discuter là-dessus parce que je sais pas si on peut être aussi catégorique que ça. Après, je suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais comme ça, au pif, je soupçonne un brin de
mauvaise foi.
Peut-être dans le truc, mais en tout cas, ça reste un truc intéressant.
C'est tout des sociotrestres.
Voilà, mais t'as un côté, t'as un peu, il y a y a ce risque-là. En tout cas, c'est voilà, une question que je me posais. Mais c'est un truc qui est hyper intéressant. Parce que si tu veux, il montre comment, si tu veux, la CNT, qui est l'organisation de masse dans la classe ouvrière, hein, c'est aucun équivalent ailleurs, si tu veux. Hein, le nationalisme catalan, en fait, lui-même, effectivement, alors, il existe, hein, il est organisé, mais il est divisé politiquement, politiquement, idéologiquement, en tout cas. Il est organisé, mais voilà, tu as des tendances qui vont du proto-fascisme corporatiste à l'échelle catalane à une espèce de gauche très radicale, quasiment mélenchoniste, tu vois, en la figure de Macià, qui va prendre la main, en fait, hein, sur le mouvement nationaliste catalan, qui va prendre la main. Et donc, c'est un mouvement qui est mais c'est pas une organisation de masse, si tu veux, tu vois. Il recrute dans la bourgeoisie catalane et aussi dans les classes moyennes, chez les artisans. Il recrute aussi dans les campagnes autour de Barcelone, hein, chez les petits propriétaires terriens, pas les gros. Hein, mais les petits propriétaires terriens, les autres sont plutôt monarchistes, hein, ou favorables, si tu veux, à un pouvoir monarchique centralisé fort, en tout cas. Donc, en fait, c'est une espèce de... On est typiquement situé dans une idéologie de politique de classe moyenne, hein, si tu veux, de classe moyenne supérieure, je dirais. Hein. Donc, voilà, il y a aussi la bourgeoisie cultivée, il y a les avocats, il y a les lettrés, il y a des universitaires... Tout ça, effectivement, est très, très humaniste. Tout ça est très respectueux de l'état de droit. Tout ça est respectueux de l'égalité face à la loi. Tout ça est très antimonarchiste. Tout ça est très décentralisateur aussi. Donc, en fait, tout ça est favorable à l'état de droit. Et c'est d'ailleurs y compris à la légalisation des organisations ouvrières qui ont été, évidemment, interdites par la monarchie d'abord, puis ensuite par Primo de Rivera, une fois qu'il accède au pouvoir et qu'il met en place un état... pas proto-fasciste, mais très autoritaire, très centralisé. En fait, il y a une foule d'interdictions comme ça, légales, si tu veux, des syndicats, des grèves. Il y a une espèce de répression féroce, hein, de la police féroce, mais pas très efficace, comme ça, depuis des années. Et si tu veux, du coup, le mouvement républicain va apparaître, lui, comme la possibilité, si tu veux, institutionnelle, légale, de faire vivre, en fait, hein, ces organisations de masse ouvrières, et du coup, d'aller plus loin. Enfin, je veux dire, c'est l'équivoque classique, si tu veux. Et il montre comment, du coup, la CNT, si tu veux, sans le dire officiellement, va contribuer, si tu veux, à la victoire électorale de ce mouvement-là en Catalogne et à Barcelone. Le mouvement qui joue sur... Il y a plein d'ambiguïtés, si tu veux, dans la politique espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ces états, ce qui va conduire à l'avènement de la République, c'est des élections municipales. Aussi bizarre que... Oui, c'est les élections municipales, c'est-à-dire t'as des contestations un peu partout en Espagne du gouvernement central, et en fait le gouvernement, pour se réassurer ou pour repasser, si tu veux, par un soutien populaire, va effectivement lancer des élections municipales qui vont lui péter à la gueule, si tu veux, et en 31 il se prend une espèce de gifle monumentale avec un raz-de-marée des partis républicains un peu partout en Espagne, et du coup derrière, effectivement, c'est le régime qui s'effondre et c'est la République qui est proclamée. Sauf que t'as toujours cette ambiguïté propre à Barcelone et à la Catalogne, c'est qu'en fait le mouvement républicain, lui, il a mobilisé en fait ses électeurs sur un projet nationaliste et sur un projet d'indépendance de la Catalogne et sur un projet, effectivement, de grands travaux, de gros investissements. On ne paiera pas les dettes de la monarchie, on ne paiera pas les dettes du gouvernement précédent, on va investir en faveur du peuple, d'une urbanisation, du logement, des services publics, des écoles, des hôpitaux, de la santé, etc., etc. Sauf qu'en fait, la première mesure, en fait, de la République, ça va consister à dire non, mais vous êtes solidaire des dettes des prédécesseurs, donc en fait, à fermer le robinet, clac, terminé. Et donc, en fait, les cas, de toute façon, ils n'ont pas un radis à investir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver avec des masses populaires qui, maintenant, ont des organisations légales et qui vont leur poser des tas de problèmes parce qu'évidemment, elles réclament ce que les autres avaient promis. Et du coup, évidemment, la solution qui va aller classique, ça va être une forme de répression policière massive. Ils ne réforment pas la police alors qu'ils s'étaient engagés à le faire. Sous des formes, il y avait des projets de garde nationale, si tu veux, contrôler démocratiquement par d'organisation de sécurité autogérée par les quartiers, etc. etc.
Évidemment, avec des officiers élus.
Évidemment, rien de tout ça ne voit le jour. Et donc, si tu veux, tu vas avoir comme ça une espèce de gradation, de tension. Et en fait, les deux figures de cette période-là, c'est assez fascinant. Tu as Macià, qui est en fait le leader autonomiste catalan, qui est à la tête, si tu veux, de la région catalane et de Barcelone, qui est un type de gauche sincère, assez radical, mais qui n'a aucun moyen et qui est, si tu veux, structuré structurellement au service de la bourgeoisie barcelonaise, et donc qui va devoir faire une espèce de répression légale tout en tenant un discours humaniste, populiste, etc. etc. Donc tu as Macià d'un côté, et en face, tu as une forme de ce qu'il appelle une militarisation des anarchistes, c'est Durruti. Et Durruti, il est déjà sur le marché depuis des années, c'est le tribun, si tu veux, anarchiste par excellence. Alors, qui a une face obscure, hein, c'est-à-dire que si tu veux, c'est un bolcho en fait. C'est un bolcho, Durruti. Il n'y a pas d'autre mot. Si tu veux, c'est vraiment la culture bolchevique, c'est-à-dire c'est la culture des minorités agissantes, de l'entraînement, la propagande par le fait. Il a pas de respect, si tu veux, particulier pour les masses ouvrières. Durruti, il s'en fout. C'est-à-dire que si t'as une grève qui ramollit quelque part, eh ben, il n'hésite pas à faire péter l'usine à la bombe sans demander l'avis des ouvriers concernés, si tu veux. Donc t'as ça. Et en même temps, si tu veux, t'as cette espèce de figure héroïque.
Comme ça. Staline, c'est un braqueur de banque de formation.
Exactement, c'est un braqueur de banque de formation. Et alors, bon, c'est la culture illégaliste anarchiste. En même temps, c'est un tribun, c'est un vrai tribun. C'est-à-dire que si tu veux, il a une voilà, c'est une élocution, il a un charisme apparemment assez vertigineux. Et en même temps, avec cette espèce de culture héroïque, si tu veux, voilà, de l'illégalisme, voilà, du braqueur de banque à grand cœur. Mais avec, je te dis, alors l'honnêteté du bouquin, c'est qu'il passe pas, si tu veux, ça sous le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, il montre qu'il compris à partir du moment où tu as une organisation de masse comme la CNT, il y a effectivement des débats, il y a des enjeux de pouvoir, y compris en interne, bien évidemment, et tu as des tendances très très fortes et des divergences extrêmement fortes. C'est-à-dire que le courant anarchiste proprement dit, mené par Durruti et puis par quelques autres et par ses groupes d'affinités, il dit en tout, ça n'a jamais regroupé probablement plus de 200 personnes.
Ah ouais,
ouais. Sauf que dans le même temps, t'as des centaines de milliers d'adhérents à la CNT, sauf qu'en fait, si tu veux, face à la répression républicaine, hein, c'est là où effectivement ça se militarise le plus. C'est eux qui prennent la main, si tu veux, sur, alors non pas la CNT qui va finir par être interdite de nouveau, mais en tout cas sur les réseaux CNT, si tu veux, sur la marque, je dirais. Hein, t'as la création, alors en 27, il y a eu la création de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, qui en fait, elle, est aussi d'inspiration anarchiste dure, je dirais, si tu veux, et qui va regrouper institutionnellement, alors un peu partout en Espagne, tous ceux qui sont partisans d'un affrontement insurrectionnel direct, en quelque sorte, dont fait partie Durruti et ce qu'ils appellent les groupistas, donc en fait, si tu veux, ces groupes d'action qui sont voilà, des espèces d'organisations clandestines armées. Paramilitaire, pourrait-on dire. Et donc ça, effectivement, si tu veux, va en fait amener et entraîner, si tu veux, la ville de Barcelone dans une espèce de cycle comme ça de, voilà, de cambriolage, d'attentats et de répression derrière. Qui fait que du coup c'est extrêmement extrêmement tendu, extrêmement violent, hein, en fait, entre le pouvoir républicain qui est arrivé notamment grâce à la mobilisation du peuple par la CNT, hein, avec le soutien de la CNT, avec cette espèce de figure tutélaire de Macià, avec une espèce de, voilà, de septuagénaire, tu vois, de gauche, avec des sympathies libertaires, mais qui du coup se retrouve à mener une politique qui est une politique en fait de centre-droit très répressive, en réalité, et en face du coup cette espèce de militarisation, voilà, des anarchistes. Et ce qui va se passer, et t'as le coup d'État là-dessus. Et alors, du coup, et c'est intéressant, du coup, de le comprendre avec toute cette perspective-là. Parce que si tu veux, on a lu tellement de trucs là-dessus, enfin, oui. Voilà, et notamment, voilà, sous forme plus ou moins romancée, hein, voilà, ça va de Malraux, Orwell, Bernanos, Hemingway, Ken Loach, enfin, voilà, t'as une telle charge là-dessus, si tu veux, que du coup, quand t'as effectivement la mise en perspective que fait le bouquin, bah, c'est vachement plus parlant, si tu veux, c'est vachement plus parlant. Et tu vois que t'as cette espèce de. Et là, en fait, si tu veux, Macià, les nationalistes catalans, sous la pression et sous la menace, en même temps, vont aussi mettre, si tu veux, la CNT au pied du mur en disant, bah, en fait, bah, venez les gars. En fait, venez. Parce que, en fait, à Barcelone, c'est la CNT et c'est les réseaux de la CNT et les groupistas de Durruti et consorts, si tu veux, c'est eux qui, en fait, qui font foirer le coup d'État. C'est-à-dire que c'est eux qui, en fait, tiennent les. Ils savent faire, si tu veux. Ils connaissent les carrefours, ils connaissent les quartiers, ils ont les dépôts d'armes, ils savent quoi bloquer, où, quand mobiliser. Ils ont, en fait, les hommes qui sont prêts pour ça. Et en fait, ils vont renvoyer les putschistes dans les casernes. Voilà, ils vont contrôler les carrefours, ils vont contrôler effectivement les casernes, et en fait le coup d'État foire. Voilà, le coup d'État foire, et du coup, si tu veux, t'as un pouvoir républicain extrêmement répressif qui se retrouve, si tu veux, avec un peuple armé, en fait. Alors, pas massivement, mais avec suffisamment, si tu veux, en fait, d'organisation militaire pour, ben, voilà, en fait, tenir objectivement la réalité du pouvoir dans la rue. Et là, du coup, si tu veux, la CNT est mise un peu au pied du mur par Macià, qui dit, ben, en fait, vous venez au gouvernement.
Ouais.
nos gouvernements. Et là, si tu veux, du coup, t'as des débats à plus savoir quoi en foutre. Et en fait, ils montrent comment, si tu veux, t'as cette espèce de... En fait, on arrive en fait à ce moment-là à une espèce de limite de cette espèce d'élan historique là qu'il a décrit depuis 30 à 40 ans. Parce que t'as des en fait, il n'y a pas de prise du pouvoir, il n'y a pas de révolution politique. En fait, t'as une révolution sociale pendant sur un moment, mais t'as pas de révolution politique. C'est-à-dire qu'effectivement, les mecs vont être absorbés par les institutions et par le gouvernement républicain contre-putschiste en quelque sorte. Et t'as en même temps t'as cette espèce, t'as tellement d'élan si tu veux, et t'as une telle force de l'élan révolutionnaire et d'une telle organisation de masse derrière que la révolution elle va se faire quasiment tout seul si tu veux, voilà. Donc t'as des collectivisations d'usines, des collectivisations de terres. Durruti lui-même il part avec plusieurs milliers d'hommes, il part pour faire la révolution, voilà, tranquille, hein, voilà. Donc ils savent pas quoi en faire de ces mecs là si tu veux, ils savent pas quoi en faire. Donc en gros ils vont l'envoyer très très vite à Madrid pour contrer si tu veux les phalangistes. Il va se faire descendre à Madrid très vite, en fait, Durruti. Mais il y a 200 000 mecs à son, 200 000 personnes à son enterrement. Enfin, c'est une star, si tu veux, voilà. Et en fait, il montre, alors ça, c'est le dernier temps, c'est plus connu, si tu veux, la manière dont finalement la CNT a été petit à petit étouffée. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, bon, c'est pas très grave si on n'a pas le temps de développer ça, mais il raconte tout ça très très bien aussi, si tu veux. Hein. La manière dont effectivement, t'as une espèce d'élan révolutionnaire qui est porteur de toutes ces décennies-là. Si tu veux, de toutes ces contradictions-là.
Et qui
va se retrouver étouffé là-dessus. Et en fait, alors, c'est intéressant aussi parce que si tu veux, pour ce qui est de la Catalogne et de Barcelone, il te montre que si tu veux, la contre-révolution stalinienne en Espagne, en fait, elle est très neuve au moment. En fait, elle a pas d'histoire. En fait, oui. Elle a pas d'histoire. En fait,
c'est
une fonction historique, si tu veux. Ouais. En fait, tu vois, c'est un truc que
ça a été montré par pas mal d'auteurs.
C'est ça, si tu veux, que t'as pas d'organisation stalinienne. Oui. En fait, t'as simplement des fractions, si tu veux, qui sont contre-révolutionnaires, qui vont s'organiser autour, si tu veux, voilà, des communistes staliniens espagnols, et qui vont éliminer, ceux qui les gênent du point de vue politique et social. Et en gros, c'est fini. Et en 37, c'est terminé. Avant même, si tu veux, que la République s'effondre, si tu veux, le moment historique, si tu veux, de la CNT et de l'anarchisme de masse, en fait, est terminé. Voilà, c'est-à-dire les ministres anarchistes sont dégagés, le POUM est liquidé en même temps, et en fait voilà, t'as une espèce d'économie de guerre centralisée perdante qui se met en place. Et si tu veux, ce moment voilà anarchiste de masse, qui est effectivement un cas unique à ma connaissance dans l'histoire à cette échelle là c'est unique. Après t'as d'autres points qui sont comparables, hein, mais même la Commune de Paris, c'est pas ça. Même la Commune de Paris, c'est pas ça. Hein, si tu veux, et donc ce moment-là, effectivement, finit par absorption, je dirais, hein, par absorption de l'élan révolutionnaire dans les institutions républicaines et dans la défaite de ces institutions-là.
Donc c'était Jeudi Noir pour présenter Chrissy Lam, Les anarchistes dans la ville, Révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937. Il était récemment chez Agone, donc un super bouquin. Et là, vous allez pouvoir écouter un dernier morceau choisi par José, The Builders and the Butchers. À mon avis, c'est de la folk, si je me souviens bien. J'ai déjà écouté ça, plus ou moins. Un morceau qui s'intitule Barcelona. Vous retrouverez toutes les références musicales des super morceaux choisis par José sur le site Gurdulu, Archive, Jeudi Noir. Et on se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire sans doute un autre jeudi d'ici peu. Southern
your front door red and white. Fill your pockets with lead and silver. Now the sea will rise and boil. When we give our bodies to the red rock soil. When the sun goes down on southern Barcelona. Every child.